Alors, aujourd'hui, on termine dans Tite. Dernier message dans l'épître de Tite. Tite chapitre 3, nous allons lire les versets 12 à 15. Tite chapitre 3, nous lisons les versets 12 à 15. Lorsque j'en te verrai, je t'enverrai, Artémas ou Tychique, à toi de venir me joindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Verset 13. Et soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Donc j'ai appelé ce message l'importance de continuer l'œuvre missionnaire. Et comme je vous ai dit, là, on arrive à la fin du livre. Donc, Paul a déjà adressé les choses qu'il fallait apprendre aux chrétiens, les nouveaux convertis sur l'île de Crète. Et maintenant, il fait sa conclusion. Et donc, nous, on ne veut pas ignorer ça parce qu'il y a quand même des détails bien importants. Mais je vais utiliser notre message aujourd'hui pour un peu résumer aussi les choses que nous avons vues dans ce livre. Donc, pour rappeler, ce livre est spécialement conçu en vue de la doctrine pratique, pour mettre en ordre les bases essentielles d'organisation des églises naissantes, pour les aider à choisir elles-mêmes les hommes qualifiés parmi leurs membres, les membres reconnus, qui seront les premiers, les tout premiers responsables de ces petites églises, et puis aussi pour établir les principes fondamentaux de la vie quotidienne des croyants en Jésus-Christ. C'est vraiment la suite du salut. Hein? On est sauvé, on se fait baptiser, et puis on vit une vie chrétienne. Et c'est là, il parle de cette vie chrétienne, le B.A.B.A. de la vie chrétienne. Or, il y avait, malgré tout, des gens parmi les supposés convertis qui n'avaient pas de respect pour Tite, qui disaient qu'il était trop jeune pour les enseigner la foi et la pratique chrétienne. En plus, il y avait des contradicteurs et des gens qui fallait écarter. Ces gens qui voulaient créer des divisions dans les communautés. Ceci signifie qu'il y avait déjà besoin de reconnaître d'un côté les ennemis religieux, les gens qu'il fallait éviter, et de l'autre côté, les bons membres des églises naissantes. On veut noter bien que ceux-là qui causaient les divisions ne font pas partie de la communauté des fidèles. Il fallait les écarter. Ils sont exclus. Pourtant, ceci ne veut pas dire qu'ils ne se sont pas les chrétiens. Ces gens égarés peuvent bien être nés de nouveau. Parce que le salut est par la grâce, par la foi, dans l'évangile de Jésus. Les gens qui croient en Jésus sont sauvés. Ça ne veut pas dire qu'ils marchent tous dans le bon sens. Donc, même si leur faute doctrinale ou leur faute pratique rompt leur communion avec la communauté chrétienne ici-bas, eh bien, leur faute ne rompt pas les promesses éternelles de Dieu. Certes, nous devons, pour un temps, écarter ces gens, mais nous devrions également prier pour eux, pour leur restauration. Nous devons prier qu'ils reviennent sur la bonne marche chrétienne et qu'ils se préparent, qu'ils se séparent de leurs idées ou de leurs pratiques sectaires. Ceci va nécessiter, pour ceux qui sont partis dans leurs idées ou pratiques sectaires, ça va leur nécessiter une repentance. Et je ne parle pas d'une repentance au salut, puisqu'ils sont déjà sauvés. Mais en ce qui concerne leurs erreurs, ils doivent changer leur pensée et ils doivent combattre dans leur propre soi-même leur orgueil afin d'avoir l'humilité de reconnaître leur tort et demander pardon aux frères. Donc, je vous rappelle que nous, et quand je dis nous, c'est les chrétiens, c'est ceux qui suivent Jésus, nous travaillons en collaboration avec lui, en collaboration avec lui, avec Jésus, pour bâtir son église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Eh bien, on entre dans ce travail. Ceci signifie de construire, de se fortifier les uns et les autres. C'est nous l'église. C'est nous qu'il faut construire. Nous ne sommes jamais appelés à détruire les gens. Nous devons plutôt nous encourager mutuellement, nous conseiller mutuellement, vivre selon la bonne marche chrétienne. Donc, ici, on a les bases définies en Tite. D'ailleurs, Paul a dit dans Hébreux chapitre 10 et versets 24 et 25, donc je ne lis pas tous les versets, mais c'est une partie de chaque verset, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et puis un peu plus loin, « Exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et on le voit s'approcher ce jour-là. Chacun d'entre nous devrait s'encourager les uns et les autres. Mais attention de ne pas vous imposer dans une fonction qui n'est pas la vôtre. Les sanctions de la discipline sont la responsabilité des responsables. Sinon, si chacun discipline tout le monde, eh bien, très bientôt, l'Église se divisera, se déchira et disparaîtra. Le troupeau peut signaler la présence d'un loup, mais il ne peut pas se protéger du loup, il ne peut pas le combattre. S'il y a des problèmes, parlez-en aux responsables et laissez-les agir. Les responsables ont été établis par la communauté à cet effet. Ça fait partie de leur travail. Ils sont reconnus par tous et ont le devoir de reprendre, censurer et exhorter. Paul a dit au jeune pasteur Timothée, donc un responsable dans une autre église, dans 2 Timothée 4, versets 1 et 2, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Dans ce texte de 2 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2, nous notons en premier que ce travail de responsable est devant le Seigneur, au nom du Seigneur, devant Dieu. Puis, ce travail est basé strictement sur la parole de Dieu. Et puis, il faut bien noter que l'attitude de la mise en œuvre de ce travail est avec entière douceur, c'est-à-dire avec la patience de l'amour, d'endurer patiemment, dans la persévérance. Et en fait, ce mot, c'est le premier trait de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 4. Il dit de Reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant. Donc ce mot instruisant, c'est avec doctrine ou avec l'enseignement de la parole de Dieu. Donc je veux reprendre ces trois mots, reprendre, censurer et exhorter. Reprendre signifie de corriger, montrer l'erreur ou exposer la faute. C'est ça l'idée, reprendre. Le mot censurer signifie de réprimander avec justesse. Il ne faut pas à peu près critiquer quelqu'un, il faut le faire avec justesse. Vraiment trouver le problème, de les avertir. Et puis le mot exhorter est le mot que nous avons déjà vu ici en titre, qui signifie de plaider, de prier, d'inviter à quelque chose, de réconforter, d'encourager et de conseiller. C'est très large comme mot. Hein? Exhorter. C'est très large. Ainsi, il faut bien noter que l'exclusion est le dernier ressort. C'est pas tout de suite imputer la main. C'est la dernière chose à faire, c'est d'imputer. Elle n'est pas le choix d'une seule personne, d'une personne toute seule, hein, de couper la relation avec les autres chrétiens. Mais c'est le choix d'une communauté entière après la faillite de tous les autres efforts. Le choix de repousser une personne, de le mettre à écarter, n'est pas à prendre à la légère. Une telle décision est prise seulement après un premier et second effort de restauration par les responsables. Comme mentionné tout à l'heure, avec la croissance et la maturité de chaque église, les premiers surveillants qui ont été proposés par Tite et puis reçus par le vote de l'Assemblée, les membres de l'église, eh bien, ils vont probablement devenir des futurs pasteurs et diacres. Là, tout de suite, ils sont proposés comme surveillants, responsables, mais plus tard, en grandissant, parce qu'ils sont tous des tout nouveaux convertis, eh bien, avec le temps, peut-être ce seront, probablement même, les pasteurs et diacres. Petit à petit, les églises allaient pouvoir recueillir donc, les documents du Nouveau Testament, qui se promenaient une lettre par-ci, une autre lettre par-là, et fait, avec le temps, les églises, ils prenaient tous les livres du Nouveau Testament pour les mettre ensemble. Donc le Saint-Esprit avait déjà inspiré les épîtres de doctrine théologique dans les autres lettres de Paul. Il n'y a que 2 Timothée qui restent à écrire. Tous les autres épîtres de Paul sont écrits. C'est pour cela que cette lettre focalise sur la doctrine pratique. Comment vivre la vie chrétienne. Donc, il n'y a que les lettres de Paul, les écrits de Paul, qui ne sont pas écrits, et bien de Timothée, bien sûr. C'est vers l'année 65. Donc, c'est une des toutes dernières lettres du Nouveau Testament à être inspirée. Donc, pour le temps, l'inspiration du Nouveau Testament allait s'achever, et cet achèvement du Nouveau Testament est ce que Paul a prophétisé dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10, ce qui est parfait. Quand ce qui est parfait sera là. Okay? Ce qui est parfait, achevé, complet, fini. Il parlait du Nouveau Testament. Eh bien, on peut dire, heureusement, Dieu a pourvu les Écritures pour nous aider, pour nous diriger, tout à travers cette époque de l'Église. Alors, je dois reconnaître, en lisant le verset 15, je vais le relire, tous ceux qui sont avec moi te saluent. Donc ça, c'est le premier verset, la première phrase dans ce verset. Alors, en lisant ça, je me suis dit, oh, je me suis trompé. Donc, il fallait que je révise un peu ma pensée. Parce que cette phrase veut dire que Paul est parti. Il n'est pas toujours sur l'île avec Timothée en écrivant. Tiens, je te donne un document et ça va t'aider. Il est déjà parti. OK. Donc, j'ai été obligé de changer mon avis sur les circonstances de cette lettre. Après avoir évangélisé Paul et son équipe ont quitté Crète afin de continuer leur évangélisation sur le continent. Paul a laissé Tite sur l'île, mais l'équipe est partie. Et Tite a dû rencontrer des problèmes, la résistance de certains sur l'île. Et donc, on ne sait pas les détails, mais il a dû communiquer avec Paul sur ce problème, et Paul a répondu avec cette lettre que nous appelons l'épître de Tite. Mais après, il avait quitté l'île. Donc la lettre a été livrée à Tite. Par qui? On peut supposer que c'est par Apollos et Zénas, deux hommes respectés, éduqués, puissants, afin de confirmer que Paul avait bien mandaté Tite. Ces deux hommes ont dû accompagner Tite pendant le temps nécessaire pour les chrétiens sur l'île reconnaissent en Tite l'autorité de Paul. Puis Zénas et Apollos devaient aller ailleurs, ils devaient partir. En plus, quelques mois plus tard, Paul comptait envoyer des frères récupérer Tite après. Afin qu'ils puissent rejoindre l'équipe à Nicopolis avant l'hiver. Donc le temps est assez court dans tout cela. Quoi que soient les attaches que Tite aurait pu établir pendant son ministère sur l'île de Crète, et même si Tite, moi je peux l'imaginer, il a apprécié le climat, eh bien il fallait qu'il quitte ce ministère et qui continue l'œuvre du Seigneur ailleurs. La phrase « Hâte-toi de venir » signifie que Tite devait faire l'effort de venir le plus rapidement possible. Donc, avant l'hiver, ce n'est pas le jour avant l'hiver, c'est aussi tôt que possible avant l'hiver, tu dois arriver ici, là, à Nicopolis. Donc, on va revenir sur le récit. Après avoir quitté l'île, Paul a écrit cette lettre afin de montrer l'autorité apostolique, afin de rassurer les convertis que le travail de Tite était d'une grande importance. En arrière-plan, c'est Dieu qui a inspiré ce texte pour les siècles à venir, donc pour nous, afin d'enregistrer le modèle d'implantation des églises. Tite devait apprendre aux nouveaux convertis toutes les choses que nous avons abordées dans les autres 10 messages. Ici, à la fin de sa lettre, Paul touche sur les finances. Pour renvoyer Apollos et Zénas sur l'île, donc ils ont quitté avec Paul, ils étaient sur la route, ils ont reçu cette message de détresse de Tite, « Ah, il ne m'écoute pas !» Et donc, il fallait renvoyer Apollos et Zénas sur l'île avec la lettre pour Tite. Alors, Paul a dû payer les dépenses de ce voyage. Ils ont pris dans les réserves. Ainsi, Paul demande que Tite apprenne aux chrétiens l'importance de participation aux frais de l'Évangile dans le monde. Paul parle ici, dans cette épître, uniquement des frais nécessaires pour expédier Zénas et Apollos sur le projet d'évangélisation. Les mots que Paul emploie sont les mots forts. Et soin de pourvoir. Ça vient de deux mots dans le grec. Donc le mot traduit pourvoir signifie d'équiper et envoyer pour le voyage. Un petit mot. Et le mot et soin, c'est un adverbe qui vient du même mot utilisé pour le futur voyage de Tite. Tite doit rapidement, plus rapidement possible, aller à Nicopolis. Et ici, c'est l'idée, en faisant l'effort le plus rapidement possible. Il fallait préparer le moyen pour Apollos et Zénas de partir sur le voyage le plus rapidement possible. Il fallait rapidement ramasser tout ce qui était nécessaire pour le voyage et les laisser partir. Et puis le texte dit aussi qu'il fallait s'assurer que rien ne leur manque pour le voyage. Donc il faut vraiment s'assurer qu'ils ont tous, parce qu'ils vont partir, ils ne vont pas rejoindre Paul, ils vont aller ailleurs continuer l'évangélisation. Et de là, je voudrais dire que la mission évangélique, et je veux pas parler d'une mission, je veux dire l'œuvre missionnaire, la mission évangélique que Jésus nous a laissée, n'est-ce pas, est très importante. Et c'est vraiment le programme de Dieu pour toute notre époque, pour nous aujourd'hui. Paul utilise cette collecte de fonds comme exemple de belles œuvres que les chrétiens peuvent faire à ce moment-là et à l'avenir, la collecte pour envoyer des missionnaires. Les gens sur l'île de Crète ont bénéficié du salut par l'Évangile parce que les chrétiens d'ailleurs ont contribué à l'envoi de l'équipe de Paul. Maintenant, ce voyage d'Apollos et Zénas leur donne l'opportunité d'apprendre à leur place. Hein. Il faut que les nôtres aussi apprennent. Donc, cette opportunité leur donne le voyage d'Apollos et de Zénas leur donne l'opportunité d'apprendre à leur tour de faire des œuvres de bienfaisance et en particulier le financement de ces missionnaires. Encore, ce sont des mots très forts. Paul dit que les chrétiens doivent apprendre. Donc, le mot apprendre, c'est en fait avoir soin. C'est-à-dire, ils doivent se consacrer, ils doivent porter attention à, ils doivent maintenir, ils doivent pratiquer avec diligence ces bons travaux, ces belles œuvres, ces œuvres bienfaisantes en ce qui concerne les besoins pressants et nécessaires. C'est pas pour s'amuser, non, c'est pas pour aller faire un petit voyage de vacances ou quelque chose. Okay? Les besoins pressants, nécessaires. L'évangélisation personnelle et le financement de l'œuvre missionnaire est important. Ce sont des belles œuvres. Ici, dans ce verset, il y a la promesse de porter du fruit quand nous participons à l'œuvre des missionnaires évangélistes. En revanche, si nous ne pratiquons pas, si nous ne participons pas, il n'y aura pas de fruit dans ce domaine-là. Donc, pas de fruit dans ce domaine-là. Quand notre Église participe dans le soutien de Michel Ossac à Bayeux, eh bien, nous recevons des fruits. Hein, on ne sait pas exactement. Quand on a une lettre, on sait quelque chose, mais Dieu, il connaît toutes ces choses-là. Quand les chrétiens ne participent pas dans le programme de Dieu, la réalité, c'est que les chrétiens ralentissent l'évangélisation dans le monde. Parce que Dieu veut évangéliser le monde et les chrétiens, trop souvent, ne participent pas. Pierre dit que Dieu est patient avec les chrétiens. Dieu, il dit dans 2 Pierre chapitre 3, Dieu use de patience envers nous, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans ce verset, dans 2 Pierre, Dieu doit être patient avec nous parce qu'il veut que les gens soient sauvés, mais nous empêchons le travail de Dieu. Nous devons participer, mieux apprendre tout de suite que de rester infructueux pendant des années. Amen. Mes amis, nous devons tous nous engager dans l'œuvre de Dieu. Alors, à ce stade, dans le développement de ces assemblées sur l'île de Crète, eh bien, les frais locaux étaient minimes. Minime, sinon non existant. Pas de salaire pour le pasteur, il n'y avait pas de pasteur. Pas de salaire, pas d'immeuble, pas d'électricité, etc. C'est certainement pour cela que Paul n'aborde pas le sujet des finances de l'Église. C'est inutile. Pour le moment, Paul ne vise que le besoin urgent, c'est-à-dire l'envoi de ses missionnaires évangélistes sur la route. Plus tard, bien sûr, les communautés auront des frais divers pour soutenir les œuvres, les veuves, les orphelins, pour loger les chrétiens persécutés, puis, tôt ou tard, le salaire du pasteur et les autres ministères de l'Église. Dans son travail, Paul était très prudent lorsqu'il parlait sur la question d'argent. Il abordait le sujet de l'argent seulement avec les églises établies. Autrement, les nouveaux convertis pourraient faussement penser que Paul agissait par cupidité. Il voulait avoir l'argent, c'est pour ça qu'il fait ça. Ben non. Ce qui n'était pas du tout le cas. Il n'était pas intéressé dans l'argent des gens. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, la fin du verset 7 et verset 9, Paul dit aux Corinthiens sa coutume. Il dit, « Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé, donc il a collecté des fonds, d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. » C'était là son coutume. Donc, on voit bien, ce n'était pas pour l'argent. Regardons maintenant la salutation à la fin de cette lettre. Il y a quelques détails intéressants. Paul invoque ceux qui nous aiment dans la foi. J'ai lu ça plein de fois, ça ne m'a pas. Ok, voilà. Bah. Et ça dépend aussi de la traduction. Des fois, c'est une traduction toute simple. Saluer nos amis. Ok? Mais en fait, il veut dire ceux qui sont bienveillants envers le message et l'équipe de Paul. Il parle de Tite. Il parle de ce texte. Il dit, saluer les gens qui aiment la parole de Dieu, qui aiment le message de Dieu. Ce sont les convertis de l'île qui ont accepté la parole, inspirée par le Saint-Esprit, rédigée par la main de Paul et adressée à Tite. Cette expression nous rappelle de Actes chapitre 2, verset 42, en parlant des tout premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Par cette expression, Paul exclut les contradicteurs et ceux qui causent des divisions, mais le problème, c'est que ces gens-là, même s'ils sont chrétiens, ils n'aiment ni Paul, ni la parole de Dieu. Ils n'aiment que eux-mêmes. Donc, en guise de conclusion, je reviens sur le départ de Tite. Le départ, en voulant dire qu'il va partir. Hein? Le missionnaire a un travail à faire. Quand ce travail est achevé, quand l'église locale est bien fondée, il faut que les missionnaires partent. Il faut que les influences étrangères disparaissent. Tite doit partir. C'est-à-dire, l'objectif de Tite est de laisser sur l'île des églises indépendantes et autonomes, des communautés locales de chrétiens qui aiment la parole de Dieu et maintiennent des principes bibliques fondamentaux écrits et sous-entendu dans le livre de Tite. Donc, je vais réviser plusieurs de ces choses. Premièrement, c'est la Bible, la parole de Dieu, les Écritures. La parole de Dieu est la seule autorité pour la foi et la pratique chrétienne. Qu'est-ce qui est chrétien? Ben, c'est ici, dans ce livre. La régénération. Seules les personnes régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau, baptisés selon le méthode biblique de l'immersion et soumises à la parole de Dieu, sont membres de l'église locale. C'est-à-dire, on peut être croyant, baptisé, et en rébellion contre tout ce qui est dans la Bible. Eh ben, non, désolé, mais on ne veut pas des membres comme ça. Ça, c'est en contradiction avec la parole. Donc, on les écarte, on prie, et on espère qu'ils vont revenir.
Amen.
Les chrétiens montrent l'unité par le repas du Seigneur. Donc, Paul ne parle pas, il ne parle ni du baptême ni du repas du Seigneur dans cette épître, parce que c'est déjà passé. C'est les autres choses qu'il a déjà discuté sur quand il était sur l'île. Les non-croyants, les contradicteurs, les sectaires sont exclus du repas du Seigneur. Il n'y a pas de sacrement, il n'y a pas de moyen de faire des activités pour se rendre tout saint, pour être accepté à Dieu. Il n'y a que les deux ordonnances seules, les deux, le baptême et le repas du Seigneur. Après, il y a l'autonomie de l'église locale. On a vu dans chaque église, établi dans chaque église. Okay? Donc, Tite devait apprendre un peu chaque ville, les chrétiens dans la ville, ils devaient repérer, ah, celui-là, il semble qualifié et proposer ça à l'Assemblée, et l'Assemblée, ah oui, on l'accepte, ils votaient pour le recevoir. Dans chaque église, les membres devaient voter leur propre responsable. Chaque église doit gérer ses propres affaires. Alors, il y a une phrase qu'on utilise, la prêtrise de tous les croyants. C'est-à-dire, on a tous accès direct à Dieu parce que par Jésus-Christ, il a ouvert accès devant Dieu, le trône de la grâce. On peut tous approcher à Dieu. C'est plus dans l'Ancien Testament où il y avait le temple et le prêtre et puis le lieu très saint et tout ça. On n'a plus ça. Mais pour aujourd'hui, je focalise seulement sur cette idée. Cette idée, c'est que les responsables étaient choisis par le peuple. Le peuple, la laïcité, hein, le laïc. C'est-à-dire les membres de l'Église. Les membres. Hein. Ils n'ont pas été imposés ni par Tite, ni par les apôtres, ni par un groupe religieux. Les pasteurs ou les responsables n'étaient pas sélectionnés parmi un groupe, les Lévites. Hein. C'était une personne que le groupe a trouvée. Il n'y avait, il ne devait pas avoir non plus de clergé. Après, on a la liberté de l'âme. C'est une autre expression qu'on utilise. Le fait, donc voilà, on va exclure quelqu'un. C'est un frère, mais qui a pris une mauvaise penchant, et donc on va l'exclure. Le fait que l'exclusion est le seul acte disciplinaire, il n'y a pas d'autre dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On n'est pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a quelqu'un à discipliner, il y a un seul acte, c'est l'exclusion. Eh bien, ça montre que chacun, déjà, a le droit à ses opinions. Même s'il a tort, il a droit à ses opinions. Et peut-être, il va falloir qu'on se sépare de cette personne. Mais il a le droit. Nous n'avons pas le droit à venir taper dessus, etc. Parce que ce n'est pas notre droit. Ce n'est pas notre place. Nous avons, comme église, comme chrétien, une seule moyen de discipline. Et c'est l'exclusion. Et puis, dernière pensée, c'est la séparation. La vie chrétienne est distincte vis-à-vis du monde. On a beaucoup parlé de ces choses que Tite avait expliquées. Les chrétiens, on a vu ça aussi, les chrétiens respectent l'État et ils maintiennent une identité distincte vis-à-vis de l'État. Tous les chrétiens de l'époque de Paul, jamais ils faisaient partie de l'État. Ce n'est pas Israël qui a dit voilà notre Église. Ce n'est pas Rome qui a dit voilà notre Église. C'est bien plus tard, dans le 4e siècle, que Constantin va commencer à faire voilà, notre royaume est maintenant chrétien, etc. Ça, ce n'est pas une idée biblique. Donc, les chrétiens respectent l'État et ils maintiennent une distinction vis-à-vis de l'État. Okay? Et puis les membres de l'église locale gardent la distance des faux docteurs et des gens sectaires. Okay, ça, c'est ce qu'on a vu dans les derniers messages d'eux. Voilà, mes amis, ma prière pour notre église, et ce devrait être aussi votre prière pour votre église, n'est-ce pas? Eh bien, c'est que Dieu nous établisse, que Dieu nous établisse solidement sur la parole de Dieu. et dans la pratique de la foi. Que nous soyons une église de membres qui évangélisent et que nous participons en tant qu'église généreusement dans l'œuvre missionnaire. Et à mon avis, hein, je pense que nous faisons du bon progrès. Je pense que notre église, ça va à l'avance. Hein, c'est bien. Continuez de prier les uns pour les autres. Continuez à participer dans notre église, dans nos œuvres, selon vos talents. Continuez à prier pour l'avenir et la croissance de notre église, mais aussi de nos œuvres, comme à Périgueux, n'est-ce pas? Okay. Donc, je pense qu'on est bien parti et que Dieu bénisse. Donc, il faut continuer à prier pour ça et que toutes ces choses qui tombent sur le pays, hein, qui tombent sur le monde avec le COVID et tout ça, n'interviennent pas pour gâcher notre communion